Socrate. Donc heureusement, si on vit agréablement. Calliclès. Certainement. Socrate. Les démangeaisons ne sont-elles agréables que sur la tête? Ou dois-je pousser plus loin mon interrogation? Vois ce que tu aurais à répondre si l'on t'interrogeait sur tout ce qui se rattache successivement à ce plaisir. Et pour ne citer que le cas le plus caractéristique, la vie d'un prostitué n'est-elle pas affreuse, honteuse et misérable? Oseras-tu dire que de pareils gens sont heureux, s'ils ont en abondance ce qu'ils désirent? Calliclès, tu n'as pas honte, Socrate, d'amener la conversation sur de pareils sujets? Socrate, est-ce donc moi qui l'y amène, mon brave? Ou celui qui déclare ainsi, sans plus de façon, que le plaisir, quel qu'il soit, constitue le bonheur, et qui parmi les plaisirs ne sépare pas les bons des mauvais? Mais encore une fois, dis-moi si tu maintiens que l'agréable et le bon sont la même chose, ou si tu admets qu'il y a des choses agréables qui ne sont pas bonnes. Calliclès, pour ne pas être en contradiction avec ce que j'ai dit, en avouant qu'ils sont différents, je réponds qu'ils sont identiques. Socrate, tu gâtes ce que tu as dit précédemment, Calliclès, et tu n'as plus qualité pour rechercher avec moi la vérité, si tu dois parler contre ta pensée. Calliclès, tu en fais autant toi-même. Socrate, si je le fais, j'ai tort, ainsi que toi. Mais réfléchis. Peut-être le bien ne consiste pas dans le plaisir, quel qu'il soit. Car s'il en est ainsi, il est évident que nous aboutissons à ces honteuses conséquences auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, et à beaucoup d'autres encore. Calliclès, oui, à ce que tu crois du moins, Socrate. Socrate, mais toi, maintiens-tu réellement ton affirmation? Calliclès, oui. Socrate, alors il faut la prendre au sérieux et la discuter. Calliclès, bien certainement. Socrate, eh bien, allons, puisque telle est ton opinion, explique-moi ceci. Y a-t-il quelque chose que tu appelles la science? Calliclès, oui. Socrate, n'as-tu pas dit tout à l'heure qu'une sorte de courage allait avec la science? Calliclès, je l'ai dit en effet. Socrate, n'y voyais-tu pas deux choses distinctes, le courage étant différent de la science? Calliclès, si, certainement. Socrate, et le plaisir et la science sont-ils identiques ou différents? Calliclès, différents, je pense, ô le plus sage des hommes. Socrate, penses-tu que le courage aussi est différent du plaisir? Calliclès, sans doute. Socrate, eh bien maintenant, tâchons de nous souvenir que Calliclès d'Arcanès a déclaré que l'agréable et le bon étaient la même chose, mais que la science et le courage étaient différents l'un de l'autre et différents du bien. Calliclès, mais Socrate d'Alopéque n'en convient pas avec nous, n'est-ce pas? Socrate, non, il n'en convient pas, et Calliclès non plus n'en conviendra pas quand il se sera correctement examiné. Dis-moi, en effet, ne crois-tu pas que le bonheur et le malheur sont deux états opposés? Calliclès, si. Socrate, eh bien s'ils sont opposés l'un à l'autre, ne sont-ils pas forcément dans le même rapport que la santé et la maladie? Car on n'est pas, n'est-ce pas, sain et malade tout à la fois, et on ne se débarrasse pas à la fois de la santé et de la maladie. Calliclès, mais que veux-tu dire? Socrate, prends pour exemple la partie du corps qu'il te plaira et réfléchis. On peut avoir une maladie des yeux qu'on appelle ophtalmie. Calliclès s'en contredit. Socrate, on n'a pas, j'imagine, les yeux sains en même temps que malades. Calliclès, c'est absolument impossible. Socrate, mais quoi? Quand on se débarrasse de l'ophtalmie, se prive-t-on aussi de la santé des yeux? Et à la fin se trouve-t-on dépourvu de l'une et de l'autre? Calliclès, pas du tout. Socrate, ce serait en effet, j'imagine, un prodige, une chose qui choquerait la raison, n'est-ce pas? Calliclès, certainement. Socrate, c'est alternativement, je pense, qu'on prend et qu'on perd l'une et l'autre. Calliclès, oui. Socrate, n'en est-il pas de même de la force et de la faiblesse? Calliclès, si. Socrate, et de la vitesse et de la lenteur? Calliclès, tout à fait. Socrate, et pour les biens et le bonheur, et pour leur contraire, les maux et le malheur. C'est alternativement qu'on reçoit et alternativement qu'on quitte les uns et les autres. Calliclès, c'est absolument mon avis. Socrate, si donc nous trouvons certaines choses que l'on perde et qu'on possède en même temps, Il est clair que ces choses ne sauraient être le bien et le mal. Sommes-nous d'accord là-dessus ? Ne réponds qu'après avoir bien réfléchi. Calliclès, j'en suis merveilleusement d'accord. Socrate, revenons maintenant aux points sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Que soutenais-tu ? Que la faim est une chose agréable ou une chose pénible ? Je parle de la faim en soi. Calliclès, que c'est une chose pénible, mais qu'il est agréable de manger quand on a faim. Socrate, j'entends. Mais la faim en elle-même est-elle pénible, ou ne l'est-elle pas ? Calliclès, elle l'est. Socrate, et la soif aussi ? Calliclès, très pénible. Socrate, continuerai-je mes questions, ou conviens-tu que tout besoin et tout désir sont pénibles ? Calliclès, j'en conviens, cesse donc tes questions. Socrate, mais boire quand on a soif, est-ce agréable selon toi ? Calliclès, oui. Socrate, mais dans ce que tu viens de dire, les mots « quand on a soif » équivalent sans doute à « quand on ressent de la douleur ». Calliclès, oui. Socrate, mais le fait de boire est la satisfaction du besoin et un plaisir. Calliclès, oui. Socrate, ainsi c'est dans le fait de boire qu'on ressent du plaisir, dis-tu. Calliclès, justement. Socrate, du moins quand on a soif. Calliclès, oui. Socrate, donc quand on souffre. Calliclès, oui. Socrate, aperçois-tu maintenant ce qui résulte de là ? Tu dis qu'on ressent à la fois du plaisir et de la douleur, quand tu dis qu'on boit ayant soif. Est-ce que cela ne se produit pas à la fois dans le même lieu et dans le même temps ? Soit dans l'âme, soit dans le corps, selon qu'il te plaira. Car cela n'importe en rien, à mon avis. Est-ce exact ou non ? Calliclès, c'est exact. Socrate, cependant, tu reconnais qu'il est impossible d'être à la fois heureux et malheureux. Calliclès, je le reconnais en effet. Socrate, d'autre part, tu es convenu qu'on pouvait être à la fois dans la peine et dans la joie. Calliclès, évidemment. Socrate, il s'ensuit que la joie n'est pas le bonheur, ni la peine le malheur, de sorte que l'agréable se révèle différent du bien. Calliclès, je ne saisis pas tes subtilités, Socrate. Socrate, tu les saisis fort bien, mais tu fais l'ignorant. Avançons encore un peu. Calliclès. Quelle sornette as-tu à dire ? Socrate. Je veux te faire voir quel habile homme tu es, toi qui me fais des remontrances. Chacun de nous, du moment qu'il cesse d'avoir soif, ne cesse-t-il pas aussi de prendre plaisir à boire ? Calliclès. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Gorgias. Ne parle pas ainsi, Calliclès. Réponds plutôt, ne fût-ce que par égard pour nous, afin que notre discussion arrive à son terme. Calliclès. Mais Socrate est toujours le même. Il vous pose un tas de petites questions insignifiantes, jusqu'à ce qu'il vous ait réfuté. Gorgias, que t'importe ? En tout cas, tu n'as pas à les apprécier. Laisse Socrate argumenter comme il lui plaît. Calliclès. Alors fais tes menues et mesquines questions, puisque tel est l'avis de Gorgias. Socrate. Tu es bien heureux, Calliclès, d'avoir été initié au grand mystère avant de l'être au petit. Je ne croyais pas que cela fût permis. Reprenons donc la discussion où tu l'as laissée, et dis-moi si chacun de nous ne cesse pas en même temps d'avoir soif et de sentir du plaisir. Calliclès, je l'avoue. Socrate, de même pour la faim et les autres appétits, ne cesse-t-il pas en même temps de sentir le désir et le plaisir ? Calliclès, c'est vrai. Socrate, ne cesse-t-il pas aussi en même temps de sentir la peine et le plaisir ? Calliclès, si. Socrate, c'est le contraire pour les biens et les maux. Ils ne cessent pas en même temps. Tu l'as reconnu toi-même. Le reconnais-tu encore à présent ? Calliclès, oui, et après ? Socrate, c'est la preuve, mon ami, que le bien n'est pas la même chose que l'agréable, ni le mal que la douleur, puisque des uns, on est débarrassé en même temps, des autres, non, car ils sont distincts. Dès lors, comment l'agréable serait-il identique au bien, et la douleur au mal ? Mais si tu veux, considère encore la question de ce biais, car je crois bien que, même après la preuve que je viens d'en donner, tu ne te rends pas à mon opinion. Vois donc, les bons selon toi ne sont-ils pas bons par la présence du bien, de même que les beaux, par la présence de la beauté ? Calliclès, si. Socrate, mais sont-ce les insensés et les lâches que tu appelles bons ? Ce n'était pas cela tout à l'heure, mais les hommes courageux et intelligents que tu qualifiais de bons. N'est-ce pas ceci que tu appelles bons ? Calliclès, certainement. Socrate, et maintenant, n'as-tu jamais vu un enfant sans raison éprouver de la joie ? Callicles. Si. Socrate. Et n'as-tu pas encore vu d'homme déraisonnable qui fût joyeux? Callicles. Je crois bien que si. Mais à quoi tend cette question? Socrate. À rien. Réponds seulement. Callicles. J'en ai vu. Socrate. Ou au contraire, un homme sensé dans la tristesse et dans la joie. Callicles. Oui. Socrate. Mais lesquels ressentent plus vivement la joie et la douleur? Des sages ou des insensés? Callicles. Je crois qu'ils ne diffèrent pas beaucoup en cela. Socrate. Cela me suffit. Et à la guerre, as-tu déjà vu un lâche? Callicles. Sans doute. Socrate. Eh bien, quand les ennemis se retiraient, lesquels t'ont paru les plus joyeux? Les lâches ou les braves? Callicles. Les uns autant que les autres, ou à peu de choses près. Socrate. La différence n'importe pas. Ce que je retiens, c'est que les lâches aussi se réjouissent. Callicles. Oui, fortement. Socrate. Et les insensés aussi, à ce qui semble. Callicles. Oui. Socrate. Et quand l'ennemi avance, les lâches en sont-ils péniblement affectés? Ou les braves le sont-ils aussi? Callicles. Ils le sont tous. Socrate. Également? Callicles. Les lâches le sont peut-être davantage. Socrate. Et quand l'ennemi se retire, ne sont-ils pas plus joyeux? Callicles. Peut-être. Socrate. Ainsi donc, les insensés et les sages, les lâches et les braves, ressentent la douleur et la joie, à peu près également, à ce que tu dis. Et les lâches, plus que les braves. Callicles. Oui. Socrate. Mais les sages et les braves sont bons, les lâches et les insensés méchants. Callicles. Oui. Socrate. Ainsi donc, les bons et les méchants ressentent la joie et la douleur, à peu près également. Callicles. Oui. Socrate. Alors les bons et les méchants sont-ils également bons et méchants? Et les méchants sont-ils même meilleurs que les bons? Callicles. Par Zeus, je ne sais pas ce que tu veux dire. Socrate. Tu ne sais pas que tu as dit que les bons sont bons par la présence du bien, et les méchants, méchants par la présence du mal, et que les biens, ce sont les plaisirs, et les maux, les chagrins. Callicles. Si. Socrate. Ainsi, ceux qui ressentent de la joie ont en eux le bien ou le plaisir, puisqu'ils sont en joie. Callicles. Sans aucun doute. Socrate. Or, si le bien est présent en eux, ne rend-il pas bon ce qui éprouve de la joie? Callicles. Si. Socrate. Et ceux qui sont dans le chagrin n'ont-ils pas en eux des maux? Des chagrins. Callicles. Assurément. Socrate. Or, c'est, dis-tu, par la présence du mal que les méchants sont méchants. Maintiens-tu ton affirmation? Callicles. Oui. Socrate. En conséquence, ceux qui sont dans la joie sont bons, et ceux qui sont dans le chagrin mauvais. Callicles. Certainement. Socrate. Et ils le sont davantage si ces sentiments sont plus vifs, moins s'ils sont plus faibles, également s'ils sont égaux. Callicles. Oui. Socrate. Or tu dis que la joie et la douleur sont à peu près égales chez les sages et les insensés, chez les lâches et les braves, ou même plus vives chez les lâches. Callicles. Oui. Socrate. Maintenant résume de concert avec moi ce qui résulte de ces aveux. Car il est beau, dit-on, de répéter et de considérer deux ou trois fois les belles choses. Nous disons donc que le sage et le brave sont bons, n'est-ce pas? Callicles, oui. Et mauvais, l'insensé et le lâche. Callicles, sans doute. Socrate, et d'autre part que celui qui ressent de la joie est bon. Callicles, oui. Socrate, et mauvais celui qui ressent de la douleur. Callicles, nécessairement. Socrate, enfin que le bon et le méchant ont les mêmes douleurs et les mêmes joies, mais que peut-être le méchant en a davantage. Callicles, oui. Ainsi donc, le méchant serait aussi méchant et bon que le bon, et même meilleur. Cette conclusion, comme les précédentes, n'est-elle pas forcée, si l'on soutient que l'agréable et le bon sont la même chose? Ne sont-ce pas des conséquences inéluctables? Callicles. Voilà bien longtemps que je t'écoute, Socrate, et que j'acquiesce à tes propositions, en me disant que si l'on s'amuse à te faire la moindre concession, tu la saisis avec une joie d'enfant. Crois-tu donc que je ne juge pas, comme tout le monde, certains plaisirs comme meilleurs, certains autres comme plus mauvais? Socrate. Oh oh, Calliclès, que tu es artificieux, tu me traites en enfant. Tu me dis tantôt que les choses sont d'une façon, tantôt d'une autre, et tu cherches à me tromper. Je ne croyais pourtant pas au commencement que tu voudrais me tromper, car je te considérais comme un ami. Je suis déçu, et je crois que je n'ai plus qu'à me contenter de ce que j'ai, comme dit le vieux proverbe, et à prendre ce que tu me donnes. Or ce que tu affirmes à présent, ce semble, c'est qu'il y a différents plaisirs, les uns bons, les autres mauvais, n'est-ce pas ? Calliclès. Oui. Socrate. Les bons sont ceux qui sont utiles, et les mauvais ceux qui sont nuisibles. Calliclès. Certainement. Socrate. Mais les utiles sont ceux qui procurent quelque bien, et les nuisibles ceux qui font du mal. Calliclès. Oui. Socrate. Maintenant veux-tu parler de plaisir, comme les plaisirs corporels, dont il était question tout à l'heure et qui consistent à manger et à boire. Parmi ces plaisirs, ne tiens-tu pas pour bon ce qui procure au corps la santé, la force ou toute autre qualité physique, et pour mauvais ce qui produisent les effets contraires ? Calliclès. Certainement. Socrate. N'en est-il pas de même des souffrances, les unes étant bonnes, les autres mauvaises ? Calliclès. Naturellement. Socrate. Ne sont-ce pas les bons plaisirs et les bonnes souffrances qu'il faut préférer dans toutes nos actions ? Calliclès. Assurément. Socrate. Mais non les mauvais. Calliclès. Évidemment. Socrate. Et en effet, tu t'en souviens, nous avons reconnu, Polos et moi, que c'est sur le bien qu'il faut régler toute notre conduite. Es-tu toi aussi de notre avis, que le bien doit être la fin de toutes nos actions, et qu'il faut tout faire en vue du bien, et non le bien en vue du reste ? Donnes-tu ton suffrage entier avec le nôtre ? Calliclès. Oui. Socrate. Ainsi, il faut tout faire, même l'agréable, en vue du bien, et non le bien en vue de l'agréable. Calliclès. Certainement. Socrate. Mais appartient-il au premier venu de discerner parmi les choses agréables quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises, ou bien est-ce le fait d'un homme expert en chaque genre ? Calliclès. C'est le fait d'un expert. Socrate. Rappelons-nous maintenant ce que je disais à Polos et à Gorgias. Je disais en effet, si tu t'en souviens, qu'il y a certaines industries qui ne visent qu'au plaisir, ne procurent que lui, et ignorent le meilleur et le pire, tandis que d'autres connaissent le bien et le mal. Et je rangeais parmi celles qui ont pour objet le plaisir, la cuisine, qui est une routine et non un art, et parmi celles qui ont le bien pour objet, l'art de la médecine. Au nom du dieu de l'amitié, Calliclès, je ne crois pas qu'il te faille jouer avec moi, et ne me réponds pas n'importe quoi contre ta pensée, et ne prends pas non plus ce que je dirais pour un badinage. Tu vois en effet que la matière que nous discutons est la plus sérieuse qui puisse occuper un homme même d'intelligence médiocre, puisqu'il s'agit de savoir de quelle manière il faut vivre, s'il faut adopter le genre de vie auquel tu me convies et agir en homme, en parlant devant le peuple, en s'exerçant à la rhétorique et en pratiquant la politique comme vous le faites, vous autres, aujourd'hui, ou s'il faut s'adonner à la philosophie et en quoi ce genre de vie diffère du précédent. Peut-être le meilleur parti à prendre est-il ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, de les distinguer, et après les avoir distingués, et avoir reconnu entre nous que ces deux genres de vie sont différents, d'examiner en quoi ils diffèrent l'un de l'autre, et lequel des deux il faut embrasser. Peut-être ne saisis-tu pas encore ce que je veux dire. Calliclès. Non, ma foi. Socrate. Eh bien, je vais m'expliquer plus clairement. Puisque nous sommes tombés d'accord, toi et moi, qu'il existe du bon et de l'agréable, et que l'agréable est autre que le bon. Que d'autre part, pour se procurer chacun d'eux, il y a une sorte d'exercice et de préparation, qui vise l'une à l'agréable, l'autre au bon. Mais sur ce point même, dis-moi d'abord si oui ou non, tu es d'accord avec moi. L'es-tu ? Calliclès. Oui. Socrate. Maintenant, accorde-moi aussi ce que je disais à Gorgias et à Polos, s'il te paraît que j'ai dit alors la vérité. Je leur disais à peu près ceci, que la cuisine ne me paraissait pas être un art, mais une routine, que la médecine, au contraire, est un art. Je me fondais sur ce que la médecine, quand elle soigne un malade, ne le fait que lorsqu'elle a étudié sa nature, qu'elle connaît les causes de ce qu'elle fait et peut rendre raison de chacune de ces deux choses. Que telle est la médecine, au lieu que l'autre, appliqué tout entière au plaisir, marche à son but absolument sans art, sans avoir examiné ni la nature, ni la cause du plaisir, véritable aveugle qui ne distingue pour ainsi dire rien nettement et qui conserve seulement par la pratique et la routine le souvenir de ce qu'on fait d'habitude et procure le plaisir par ce moyen. Considère donc, d'abord, si cela te paraît exact et s'il n'y a pas aussi certaines autres professions du même genre qui se rapportent à l'âme, les unes relevant de l'art et soucieuses de pourvoir au plus grand bien de l'âme, les autres indifférents à son bien et ne considérant, comme je le disais de la cuisine, que le plaisir de l'âme et le moyen de le lui procurer. Quant à distinguer parmi les plaisirs les meilleurs et les pires, elles n'y prêtent aucune attention et n'ont d'autre souci que de faire plaisir, indifférentes au bien et au mal. Pour moi, Calliclès, je pense qu'il existe de telles professions et j'affirme que leur fait n'est que flatterie, qu'il s'agisse du corps ou de l'âme, et de tout autre objet auquel on veut ménager du plaisir, sans considérer si c'est à son avantage ou à son détriment. Mais toi, partages-tu notre opinion là-dessus, ou es-tu d'avis contraire ? Mais toi, partages-tu notre opinion là-dessus, ou es-tu d'avis contraire ? Calliclès. Non, je te passe ce point, pour que tu puisses mener la discussion à terme, et pour complaire à Gorgias. Socrate, cette flatterie s'exerce-t-elle à l'égard d'une seule âme, et non à l'égard de deux, ou plusieurs ? Calliclès, elle s'exerce à l'égard de deux, ou plusieurs. Socrate, ainsi l'on peut chercher à complaire à une foule d'âmes à la fois, sans s'inquiéter de leur véritable intérêt. Calliclès, je le crois. Socrate, maintenant veux-tu me dire quelles sont les professions qui produisent cet effet ? Ou plutôt, si tu veux bien, je vais t'interroger. Et quand une profession te paraîtra rentrer dans cette catégorie, tu diras oui. Autrement, tu diras non. Commençons par celle du joueur de flûte. Ne te semble-t-il pas, Calliclès, que c'est une de ces professions qui ne vise qu'à notre plaisir, sans se soucier d'aucune autre chose ? Calliclès, je le crois. Socrate, n'en est-il pas de même de toutes celles du même genre ? Par exemple, de celles du joueur de cithare dans les concours ? Calliclès, si. Socrate, et l'instruction des chœurs, et la composition des dithyrambes, n'est-il pas manifeste pour toi qu'elles sont aussi de ce genre ? Ou crois-tu que Kinésias, fils de Mélès, songe à dire quoi que ce soit qui puisse améliorer ce qu'il entende, ou uniquement ce qui doit faire plaisir à la foule des spectateurs ? Calliclès, c'est évident, Socrate, en ce qui regarde Kinésias. Socrate, et son père, Mélès, quand il chantait en s'accompagnant de la cithare, crois-tu qu'il avait en vue le bien ? Avait-il même le souci de contenter les spectateurs, lui qui les assommait par son chant ? Mais songe-y, ne te semble-t-il pas que toute la poésie citharédique et dithyrambique ait été inventée en vue du plaisir ? Calliclès, si. Socrate, et cet auguste et merveilleux poème qu'est la tragédie ? Quel est son dessein ? Que veut-il et à quoi s'applique-t-il ? Est-ce uniquement à plaire aux spectateurs, comme je le crois ? Ou bien s'il se présente une idée agréable et flatteuse pour les spectateurs, mais mauvaise, prend-il à cœur de la taire et de déclamer, et de chanter au contraire l'idée qui est désagréable, mais utile, que cela plaise ou non ? De ces deux dispositions, quelle est, crois-tu, celle de la tragédie ? Calliclès, il est clair qu'elle tend plutôt à plaire et à flatter le public. Socrate, or n'avons-nous pas dit tout à l'heure que tout cela n'était que de la flatterie ? Calliclès, assurément. Socrate, mais si l'on notait de quelque poésie que ce soit, la mélodie, le rythme et le maître, resterait-il autre chose que des discours ? Calliclès, non, certainement. Socrate, or ces discours s'adressent à la multitude et au peuple. Calliclès, oui. Socrate, la poésie est donc une sorte de discours au peuple. Calliclès, il y a apparence. Socrate, donc un discours d'orateur. Ou bien les poètes ne te semblent-ils pas faire acte d'orateur dans les théâtres ? Calliclès, si. Socrate, nous venons donc de trouver une sorte de rhétorique à l'usage d'un peuple formé d'enfants, de femmes et d'hommes, d'esclaves et d'hommes libres, confondus ensemble, rhétorique que nous apprécions peu, puisque nous la tenons pour une flatterie. Calliclès, assurément. Socrate, bon, mais la rhétorique qui s'adresse au peuple d'Athènes et à celui des autres États, c'est-à-dire à des hommes libres, Quelle idée faut-il en prendre? Te paraît-il que les orateurs parlent toujours en vue du plus grand bien et se proposent pour but de rendre par leur discours les citoyens aussi vertueux que possible? Ou crois-tu que, cherchant à plaire aux citoyens et négligeant l'intérêt public pour s'occuper de leur intérêt personnel, ils se conduisent avec les peuples comme avec des enfants, essayant seulement de leur plaire, sans s'inquiéter aucunement si par ces procédés ils les rendent meilleurs ou pires? Calliclès, cette question n'est plus aussi simple. Il y a des orateurs qui parlent dans l'intérêt des citoyens. Il y en a d'autres qui sont tels que tu dis. Socrate, il suffit. S'il y a deux manières de parler au peuple, l'une des deux est une flatterie et une déclamation honteuse. L'autre est l'honnête. J'entends celle qui travaille à rendre les âmes des citoyens les meilleures possibles, qui s'applique à dire toujours le meilleur, que cela plaise ou déplaise à l'auditoire. Mais tu n'as jamais vu de rhétorique semblable, ou si tu peux citer quelque orateur de ce caractère, hâte-toi de le nommer. Calliclès, non, par Zeus, je ne peux t'en nommer aucun, du moins parmi les orateurs d'aujourd'hui. Socrate, et parmi les anciens, peux-tu en citer un grâce auquel, dès qu'il a commencé à les haranguer, les Athéniens soient devenus meilleurs, de moins bons qu'ils étaient auparavant? Pour moi, je ne vois pas quel est celui-là. Calliclès, comment? N'as-tu pas entendu dire que Thémistocle était un homme de mérite, ainsi que Simon, Miltiade et ce Périclès qui est mort récemment et que tu as entendu toi-même? Socrate, s'il est vrai, Calliclès, comme tu l'as affirmé précédemment, que la véritable vertu consiste à contenter ses propres passions et celles des autres, je n'ai rien à t'objecter. Mais s'il n'en est pas ainsi, et si nous avons été contraints d'avouer par la suite qu'il faut satisfaire ceux de nos désirs qui, réalisés, rendent l'homme meilleur, mais non ceux qui le rendent pire, et que c'est là un art, peux-tu soutenir qu'aucun de ces orateurs ait rempli ces conditions? Calliclès, je ne sais trop que te répondre. Socrate, cherche bien, et tu trouveras. Allons, examinons comme ceci, tranquillement, si quelqu'un d'eux les a remplis. Voyons, l'homme vertueux qui dans tous ses discours a le plus grand bien en vue, ne parlera pas au hasard, n'est-ce pas? Mais avec dessein. Il fera comme tous les autres artisans qui, considérant chacun ce qu'ils veulent faire, ne ramassent pas au hasard les matériaux qu'ils emploient pour leurs ouvrages, mais les choisissent de manière à lui donner une forme particulière. Par exemple, jette les yeux sur les peintres, les architectes, les constructeurs de vaisseaux, et sur tel autre ouvrier qu'il te plaira. Tu verras comment chacun d'eux place en ordre ses matériaux et force chacun à s'ajuster et à s'harmonier aux voisins, jusqu'à ce qu'il ait composé un tout bien arrangé et bien ordonné. Il en est aussi ainsi de tous les artisans, et en particulier de ceux que nous avons mentionnés tout à l'heure, qui s'occupent du corps. Je veux dire les maîtres de gymnastique et les médecins. Ils ordonnent et règlent le corps. Sommes-nous d'accord sur ce point ou non? Calliclès, soit, si tu veux. Socrate, donc si la régularité et l'ordre règnent dans une maison, elle est bonne. Si c'est le désordre, elle est mauvaise. Calliclès, j'en conviens. Socrate, n'en est-il pas de même d'un vaisseau? Calliclès, si. Socrate, n'en disons-nous pas autant de nos corps? Calliclès, certainement. Socrate, et notre âme, sera-t-elle bonne si elle est déréglée, ou si elle est réglée et ordonnée? Calliclès, d'après ce que nous avons dit précédemment, c'est la deuxième hypothèse qui s'impose. Socrate, et dans le corps, quel nom faut-il donner à l'effet que produisent la règle et l'ordre? Calliclès, tu veux parler sans doute de la santé et de la force. Socrate, oui, et à l'effet que la règle et l'ordre produisent dans l'âme, quel nom lui donnerons-nous? Essaye de le trouver et dis-le-moi, comme tu l'as fait pour le corps. Calliclès, pourquoi ne le dis-tu pas toi-même, Socrate? Socrate, je le dirai si tu le préfères. De ton côté, si tu approuves ce que je vais dire, conviens-en. Sinon, réfute-moi et arrête-moi. Pour moi, il me paraît que le nom de saint convient à l'ordre qui règne dans le corps et que de là vient la santé, ainsi que toutes les autres qualités physiques. Est-ce exact ou non? Calliclès, c'est exact. Socrate, l'ordre et la règle dans l'âme s'appellent l'égalité et loi, et c'est ce qui fait les hommes justes et réglés. C'est cela qui constitue la justice et la tempérance. L'accordes-tu ou non? Calliclès, soit. Socrate, voilà donc ce que l'orateur dont je parle, celui qui suit l'art et la vertu, aura en vue dans tous les discours qu'il adressera aux âmes, et dans toutes ses actions, et soit qu'il donne, soit qu'il ôte quelque chose au peuple, il songera sans cesse au moyen de faire naître la justice dans l'âme de ses concitoyens, et d'en bannir l'injustice, d'y faire germer la tempérance, et d'en écarter l'incontinence. En un mot, d'y introduire toutes les vertus, et d'en exclure tous les vices. M'accordes-tu cela ou non ? Calliclès, je te l'accorde. Socrate, à quoi sert-il en effet d'offrir à un corps malade et mal en point des aliments en abondance, des boissons exquises et tout autre délice qui parfois ne lui profitera pas plus, à en bien juger, que le traitement contraire, qui lui profitera même moins ? Est-ce vrai ? Calliclès, soit. Socrate, ce n'est pas, je pense, un avantage pour un homme de vivre avec un corps misérable, car il est, en ce cas, condamné à une vie misérable aussi. N'est-ce pas exact ? Calliclès, si. Socrate, n'est-il pas vrai que les médecins permettent généralement, quand on est bien portant, de satisfaire ses désirs, par exemple de manger autant qu'on veut, quand on a faim, de boire quand on a soif, tandis que, si l'on est malade, ils ne permettent pour ainsi dire jamais de se rassasier de ce qu'on désire. Es-tu d'accord avec moi sur ce point ? Calliclès, oui. Socrate, et pour l'âme, excellent Calliclès, la règle n'est-elle pas la même ? Tant qu'elle est mauvaise, parce qu'elle est déraisonnable, incontinente, injuste, impie, il faut l'éloigner de ce qu'elle désire, et ne pas lui permettre de faire autre chose que ce qui doit la rendre meilleure. Es-tu de cet avis ou non ? Calliclès, je suis de cet avis. Socrate, n'est-ce pas là ce qui vaut le mieux pour l'âme elle-même ? Calliclès, assurément. Socrate, mais éloigner quelqu'un de ce qu'il désire, n'est-ce pas le châtier ? Calliclès, si. Socrate, donc le châtiment est meilleur pour l'âme que l'incontinence, contrairement à ce que tu pensais tout à l'heure. Calliclès, je ne sais pas ce que tu veux dire, Socrate. Interroge un autre que moi. Socrate, cet homme-là ne souffre pas qu'on lui rende service, et ne peut supporter la chose même dont nous parlons, le châtiment. Calliclès, je ne me soucie aucunement de ce que tu dis, et je n'ai répondu que pour faire plaisir à Gorgias. Socrate, soit, mais alors que faire ? Allons-nous rompre l'entretien sans l'achever ? Calliclès, c'est à toi d'en décider. Socrate, il n'est pas permis, dit-on, de laisser en plan même un compte. Il faut lui donner une tête, pour qu'il ne circule pas sans tête. Réponds donc encore pour ce qui reste, afin de donner une tête à notre entretien. Calliclès, quel tyran tu fais, Socrate ! Mais si tu m'en crois, tu laisseras tomber cette discussion, ou tu discuteras avec un autre que moi. Socrate, alors quel autre consent à discuter ? Nous ne pouvons certes pas laisser la discussion inachevée. Calliclès, ne pourrais-tu pas la poursuivre toi-même, soit en parlant tout seul, soit en te répondant à toi-même, hein ? Socrate, tu veux donc que, suivant le mot d'Épicharme, je suffise à moi seul à dire ce que deux hommes disaient auparavant ? J'ai peur d'être forcé d'en venir là, mais si nous procédons de la sorte, je pense, moi, que nous devons tous rivaliser d'ardeur pour découvrir ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans la question que nous traitons, car nous avons tous à gagner à faire la lumière sur ce point. Je vais donc vous exposer ce que j'en pense, et si quelqu'un de vous trouve que je me fais des concessions erronées, qu'il me reprenne et me réfute. Aussi bien je ne parle pas comme un homme sûr de ce qu'il dit, mais je cherche de concert avec vous, en sorte que si mon contradicteur me paraît avoir raison, je serai le premier à le reconnaître. Si je vous dis cela, c'est pour le cas où vous jugeriez qu'il faut pousser la discussion jusqu'au bout. Mais si vous ne le voulez pas, restons-en là, et allons-nous-en. Gorgias, pour ma part, Socrate, je suis d'avis qu'il ne faut pas encore nous retirer, et que tu ailles jusqu'au bout de ton exposition, et je suis sûre que les autres partagent mon opinion. Personnellement, je désire t'entendre développer ce qui te reste à dire. Socrate, de mon côté, Gorgias, j'aurais volontiers continué à discuter avec Calliclès, jusqu'à ce que je lui eusse rendu la réplique d'Amphion en échange de la tirade de Zétos. Mais puisque tu refuses, Calliclès, de m'aider à terminer l'entretien, écoute-moi du moins et arrête-moi si tu trouves que j'avance quelque chose d'inexact. et si tu me démontres mon erreur, je ne me fâcherai pas contre toi, comme tu viens de le faire à mon égard. Au contraire, je t'inscrirai au premier rang de mes bienfaiteurs. »
Calliclès, parle toi-même, mon bon, et achève.
Socrate, écoute-moi donc, tandis que je reprends l'argumentation dès le commencement. L'agréable et le bon sont-ils la même chose?
Non, comme nous en sommes convenus,
Calliclès et moi. Faut-il faire l'agréable en vue du bon, ou le bon en vue de l'agréable?
L'agréable en vue du bon.
Et l'agréable, est-il ce dont la présence nous réjouit, et le bon ce dont la présence nous rend bon?
Certainement.
Or nous sommes bons, nous et les autres choses bonnes, par la présence d'une certaine qualité.
Cela me paraît incontestable, Calliclès.
Mais la qualité propre à chaque chose, meuble, corps, âme, animal quelconque, ne lui vient point à l'aventure d'une manière parfaite. Elle vient d'un arrangement, d'une justesse, d'un art adapté à la nature de chacune.
Est-ce vrai?
Pour moi, je l'affirme.
Ainsi, la vertu de chaque chose consiste dans l'arrangement et la disposition établie par l'ordre.
Je dirais oui.
Ainsi, une sorte d'ordre propre à chaque chose la rend bonne par sa présence en elle.
C'est mon avis. Par conséquent, l'âme où se trouve l'ordre qui lui convient est meilleure que celle où l'ordre fait défaut.
Nécessairement.
Mais l'âme où règne l'ordre est une âme bien réglée?
Sans contredit.
Et l'âme bien réglée est tempérante.
De toute nécessité.
Donc une âme tempérante est bonne.
Pour moi, je n'ai rien à objecter contre ces propositions.
Si tu as toi quelque chose à y reprendre, fais-le connaître.
Calliclès. Continue, mon bon. Continue.
Socrate, je dis donc que si l'âme tempérante est bonne, celle qui est dans l'état contraire est mauvaise. Et nous avons vu que c'est l'âme insensée et déréglée.
Sans contredit.
Et maintenant l'homme tempérant s'acquitte de ses devoirs envers les dieux et envers les hommes. Car il ne serait pas tempérant s'il ne s'acquittait pas de ses devoirs. Il est nécessaire que cela soit ainsi. Et en faisant son devoir envers les hommes, il agit avec justice. Et envers les dieux, avec pitié. Or, celui qui fait ce qui est juste et pieux est forcément juste et pieux.
C'est vrai.
Et forcément aussi courageux, car ce n'est pas le fait d'un homme tempérant, ni de poursuivre ni de fuir ce qu'il ne doit pas, mais de fuir et de poursuivre ce qu'il doit. Qu'il s'agisse de choses ou de personnes, de plaisir ou de peine, et de persister fermement dans son devoir. De sorte qu'il est de toute nécessité, Calliclès, que l'homme tempérant, étant, comme nous l'avons vu, juste, courageux et pieux, soit aussi un homme parfaitement bon. Que l'homme bon fasse bien et honnêtement tout ce qu'il fait, et que vivant bien, il soit heureux et fortuné, tandis que le méchant, agissant mal, est malheureux. Or ce méchant, c'est l'opposé de l'homme tempérant. C'est l'homme déréglé que tu vantais. Voilà donc les principes que je pose et j'affirme qu'ils sont vrais. Or, s'ils sont vrais, il est notoire que celui qui veut être heureux doit s'attacher et s'exercer à la tempérance, et fuir l'intempérance, à toutes jambes, et s'arranger avant tout pour n'avoir pas du tout besoin de châtiment. Mais s'il en a besoin, lui ou quelqu'un de ses proches, particulier ou état, il faut qu'on lui inflige un châtiment et qu'on le punisse, si l'on veut qu'il soit heureux. Tel est, à mon avis, le but sur lequel il faut tenir les yeux pour régler sa vie. Il faut concentrer tous ses efforts et tous ceux de l'État vers l'acquisition de la justice et de la tempérance, s'il en veut être heureux. Il faut rapporter tous ses actes à cette fin et se garder de lâcher la bride à ses passions. Et en tentant d'en les satisfaire, ce qui serait un mal sans remède, de mener une vie de brigand. Un tel homme, en effet, ne saurait être aimé d'un autre homme, ni de Dieu, car il ne peut lier société avec personne. Et sans société, pas d'amitié. Les savants, Calliclès, disent que le ciel et la terre, les dieux et les hommes, sont unis ensemble par l'amitié, la règle, la tempérance et la justice. Et c'est pour cela, camarade, qu'ils donnent à tout cet univers le nom d'ordre, et non de désordre et de dérèglement. Mais il me semble que toi, tu ne fais pas attention à cela, malgré toute ta science, et tu oublies que l'égalité géométrique a beaucoup de pouvoir chez les dieux et chez les hommes. Toi, tu penses au contraire qu'il faut tâcher d'avoir plus que les autres. C'est que tu négliges la géométrie. Mais passons. Il faut maintenant
ou bien réfuter mon argumentation et prouver que les heureux ne doivent point leur bonheur à la possession de la justice et de la tempérance, ni les malheureux leur misère à celle du vice. Ou bien si mon argumentation est juste, il faut en examiner les conséquences. Or, ces conséquences, Calliclès, ce sont toutes les affirmations à propos desquelles tu m'as demandé si je parlais sérieusement. Lorsque j'ai avancé que, si l'on avait commis une injustice, il fallait s'accuser soi-même, son fils, son camarade, et se servir pour cela de la rhétorique. Et ce que tu t'imaginais que Polos m'accordait par fausse honte était donc la vérité, à savoir qu'il est plus laid de commettre une injustice que de la subir, et d'autant plus désavantageux que c'est plus laid. Et que si l'on veut être un bon orateur, il faut être juste et versé dans la science de la justice, ce que Polos à son tour reprochait à Gorgias de m'accorder par fausse honte. Cela posé, examinons ce que valent les reproches que tu me fais, et si tu as raison ou non de dire que je ne suis pas en état de me secourir moi-même, ni aucun de mes amis ou de mes proches, et de me tirer des plus grands dangers, que je suis comme un homme noté d'infamie, à la merci du premier venu qui voudra, selon ton énergétique expression, maçonner son poing sur la joue, me dépouiller de mes biens, me bannir de la cité, ou pis encore, me mettre à mort, et qu'être dans une telle situation est la chose la plus honteuse du monde. Telle était ton opinion. Voici la mienne. Je l'ai déjà exprimée plus d'une fois, mais rien n'empêche de la répéter. Je nie, Calliclès, que la chose la plus honteuse soit d'être souffleté injustement ou de se voir couper les membres ou la bourse. Et je soutiens qu'il est plus honteux et plus mal de me frapper, de me mutiler injustement, moi et les miens, et que me voler, me réduire en esclavage, percer ma muraille, en un mot, commettre une injustice quelconque contre moi ou contre ce qui m'appartient, est une chose plus mauvaise et plus laide pour celui qui commet l'injustice que pour moi qui en suis victime. Ces vérités qui nous sont apparues plus haut dans nos précédents discours, comme je le soutiens, sont attachées et liées, si je puis employer cette expression hardie, par des raisons de fer et de diamant, du moins à ce qu'il me semble. Si tu ne parviens pas à les rompre, toi ou quelque autre plus vigoureux que toi, il n'est pas possible de tenir un autre langage que le mien, si l'on veut être dans le vrai. Pour moi, en effet, je répète toujours la même chose, que j'ignore ce qui en est, mais que de tous ceux que j'ai rencontrés, comme toi aujourd'hui, il n'en est aucun qui ait pu parler autrement sans prêter au ridicule. J'affirme donc encore une fois que les choses sont ainsi. Mais si elles sont ainsi, et si l'injustice est le plus grand des maux, pour celui qui la commet, et si, tout grand qu'est ce mal, c'en est un pire encore, s'il est possible, de n'être pas puni quand on est coupable, quel est le genre de secours qu'il serait vraiment ridicule de ne pouvoir s'assurer à soi-même? N'est-ce pas celui qui détournera de nous le plus grand dommage? Oui, ce qu'il y a incontestablement de plus laid en cette matière, c'est de ne pouvoir secourir ni soi-même, ni ses amis et ses proches. Au second rang vient le genre de discours qui nous protège contre le second mal. Au troisième rang, celui qui nous protège du troisième mal. Et ainsi de suite. Plus le mal est grave, plus il est beau d'être capable d'y résister, et honteux de ne pas l'être. Cela est-il autrement ou comme je le dis? Calliclès, il n'en est pas autrement. Socrate, de ces deux choses, commettre l'injustice et la subir. Nous déclarons que le mal est le plus grand pour celui qui la commet, moins grand pour celui qui la subit. Que faut-il donc que l'homme se procure pour se défendre et s'assurer le double avantage de ne commettre et de ne subir aucune injustice? Est-ce la puissance ou la volonté? Voici ce que je veux dire. Suffit-il de vouloir ne pas subir d'injustice pour en être préservé? Ou est-ce en se ménageant de la puissance qu'on s'en préservera? Calliclès, c'est évidemment en se ménageant de la puissance. Socrate, et pour ce qui est de commettre l'injustice, est-ce assez de ne pas vouloir la commettre? En ce cas, en effet, on ne la commettra pas. Ou bien faut-il pour cela acquérir une certaine puissance et un certain art, dont la connaissance et la pratique peuvent seules nous empêcher d'être injustes? Réponds-moi sur ce point particulier, Calliclès. Penses-tu que, quand nous sommes convenus, Polos et moi, au cours de la discussion, que personne n'est injuste volontairement, mais que tous ceux qui font le mal le font malgré eux, nous avons été contraints à cet aveu par de bonnes raisons, ou non? Calliclès, je te passe ce point, Socrate, pour que tu puisses achever ton discours. Socrate, Il faut donc, à ce qu'il paraît, se procurer une certaine puissance et un certain art pour réussir à ne point commettre d'injustice.
Calliclès, certainement.
Maintenant, quel peut bien être l'art qui nous met en état de ne point subir l'injustice ou d'en subir le moins possible? Vois si tu es de mon avis sur ce point.
Je pense, moi, qu'il faut posséder dans la cité le pouvoir ou même la tyrannie, ou bien être un ami du gouvernement existant.
Calliclès, tu peux voir, Socrate, avec quel empressement je t'approuve, quand tu dis quelque chose de juste.
Ceci me paraît tout à fait bien dit.
Socrate, examine maintenant si ce que je vais dire te paraît également bien dit.
Il me semble à moi que la plus étroite amitié qui puisse lier un homme à un homme est, comme le disent les anciens sages, celle qui unit le semblable au semblable.
Et à toi?
Calliclès, à moi aussi.
Socrate, ainsi, là où le pouvoir appartient à un tyran sauvage et grossier, s'il y a dans la cité quelques citoyens beaucoup meilleurs que lui, le tyran le redoutera certainement, et ne pourra jamais l'aimer du fond du cœur.
Calliclès, c'est exact.
Socrate, mais s'il y a un homme beaucoup plus mauvais que lui, le tyran ne saurait l'aimer non plus, car il le mépriserait et ne rechercherait jamais son amitié.
Calliclès, c'est vrai aussi.
Socrate, alors le seul ami digne de considération qu'il lui reste est un homme du même caractère que lui, qui blâme et loue les mêmes choses et qui consent à lui obéir et à s'incliner dans son autorité. Celui-là jouira d'un grand pouvoir dans la cité, et personne ne pourra se féliciter de lui faire du mal. N'est-ce pas la vérité?
Calliclès, si.
Socrate, si donc quelque jeune homme dans cette cité se disait à lui-même, « Comment pourrais-je devenir puissant et me mettre à l'abri de toute injustice ?» Voici, semble-t-il, la route à suivre. C'est de s'habituer de bonne heure à aimer et à haïr les mêmes choses que le maître, et de s'arranger pour lui ressembler le plus possible. N'est-ce pas vrai?
Calliclès, si.
Socrate, voilà l'homme qui réussira à se mettre à l'abri de l'injustice et à devenir, comme vous dites, puissant dans la cité.
Calliclès, parfaitement.
Socrate, mais réussira-t-il également à ne pas commettre d'injustice? Ou s'en faut-il de beaucoup s'il doit ressembler à son maître, qui est injuste, et avoir un grand crédit près de lui? Moi, je pense, au contraire, qu'il s'arrangera pour pouvoir commettre le plus d'injustices possible, et n'en pas être puni.
Qu'en dis-tu?
Calliclès, il y a apparence.
Socrate, il aura donc en lui le plus grand des maux, une âme pervertie et dégradée par l'irritation de son maître et par la puissance.
Calliclès, je ne sais pas comment tu peux, Socrate, mettre sans dessus dessous tous les raisonnements. Ne sais-tu pas que cet imitateur fera périr, s'il le veut, celui qui n'imite pas le tyran, et lui enlèvera ses biens?
Socrate, je le sais, mon bon Calliclès, il faudrait être sourd pour l'ignorer, car je te l'ai entendu dire à toi, et je l'ai entendu répéter maintes fois tout à l'heure à Pelos, et à presque tous les habitants de la ville. Mais à ton tour, écoute ceci.
Oui, il tuera s'il veut, mais c'est un méchant qui tuera un honnête homme.
Calliclès, n'est-ce pas précisément cela qui est le plus révoltant?
Socrate, non pas, du moins pour un homme sensé, comme la raison le démontre. Crois-tu donc que le but des efforts de l'homme soit de vivre le plus longtemps possible et de pratiquer les arts qui nous sauvent toujours des dangers, comme cette rhétorique que tu me conseilles de cultiver, parce qu'elle nous sauve dans les tribunaux?
Calliclès, oui, par Zeus, et mon conseil est bon.
Socrate, mais voyons, d'excellent ami. Penses-tu que l'art de nager soit aussi un art considérable?
Calliclès, non, par Zeus.
Socrate, et pourtant cet art aussi sauve les hommes de la mort, dans les accidents où l'on a besoin de savoir nager. Mais si cet art te paraît mesquin, je vais t'en nommer un plus important, l'art de gouverner les vaisseaux, qui sauve des plus grands périls non seulement les âmes, mais aussi les corps et les biens, comme la rhétorique. Et cet art est simple et modeste, il ne se vante pas, il ne prend pas de grands airs comme s'il accomplissait des merveilles. Bien qu'il nous procure les mêmes avantages que l'éloquence judiciaire, quand il nous a ramenés sains et saufs d'Égine, ici, il ne prend, je crois, que deux oboles. Si c'est de l'Égypte ou du Pont, pour ce grand service, pour avoir sauvé ce que je disais tout à l'heure, notre personne, nos enfants, nos biens et nos femmes, en nous débarquant sur le port, il nous demande tout au plus 2 drachmes. Et l'homme qui possède cet art et qui accomplit tout cela, une fois descendu à terre, se promène sur le quai près de son vaisseau avec une contenance modeste. C'est qu'il sait, je pense, se dire à lui-même qu'il est difficile de reconnaître les passagers auxquels il a rendu service, en les préservant de se noyer, et ceux auxquels il a fait tort, car il n'ignore pas qu'en les débarquant, il ne les a laissés aucunement meilleurs qu'ils n'étaient en s'embarquant, ni pour le corps, ni pour l'âme. Il se dit donc ceci. Si quelqu'un, atteint en son corps de maladies graves et incurables, n'a pas été noyé, c'est un malheur pour lui de n'être pas mort, et je ne lui ai fait aucun bien. De même si un autre porte en son âme, plus précieuse que son corps, une foule de maladies incurables, il n'a plus besoin de vivre, et je ne lui rendrai pas service en le sauvant de la mer, ou des tribunaux, ou de tout autre péril. Il sait en effet que ce n'est pas pour le méchant un avantage de vivre, puisqu'il ne peut que vivre mal. Voilà pourquoi le pilote n'a pas l'habitude de tirer vanité de son art, bien qu'il nous sauve. Non plus, mon admirable ami, que le constructeur de machines, qui parfois peut sauver des choses aussi importantes, je ne dis pas que le pilote, mais que le général d'armée, ou tout autre quel qu'il soit, puisqu'il sauve quelquefois des villes entières. Tu ne crois pas, n'est-ce pas, qu'il est comparable à l'orateur judiciaire? Pourtant, s'il voulait parler comme vous, Calliclès, il vous accablerait de ses raisons, et vous dirait, et vous conseillerait, de vous faire constructeur de machines, attendu que le reste n'est rien, car il ne manquerait pas d'arguments. Mais toi, tu ne l'en méprises pas moins, lui et son art. Tu lui jetterais volontiers le nom de machiniste, comme une injure, et tu ne consentirais ni à donner ta fille à son fils, ni à épouser toi-même sa fille à lui. Cependant, à examiner les raisons pour lesquelles tu magnifies ton art, de quel droit méprises-tu le machiniste et les autres dont je parlais tout à l'heure? Je sais bien que tu as les Grecs, que tu es meilleur qu'eux, et de meilleure famille. Mais si le meilleur est autre chose que ce que je dis, si la vertu consiste uniquement à sauver sa personne et ses biens, quoi qu'on vaille d'ailleurs, tu es ridicule de dénigrer le machiniste, le médecin et les autres arts qui ont été inventés pour nous sauver. Vois plutôt, mon bienheureux ami, si la noblesse de l'âme et le bien ne seraient pas autre chose que de sauver les autres et se sauver soi-même du péril. Car de vivre plus ou moins longtemps, c'est, sois-en sûr, un souci dont l'homme véritablement homme doit se défaire. Au lieu de s'attacher à la vie, il doit s'en remettre là-dessus à la divinité, et croire, comme disent les femmes, que personne au monde ne saurait échapper à son destin, puis chercher le moyen de vivre le mieux possible le temps qu'il a à vivre. Faut-il pour cela s'adapter à la constitution politique du pays qu'on habite? En ce cas, tu devrais toi-même te rendre aussi semblable que possible au peuple d'Athènes, si tu veux en être aimé et devenir puissant dans l'État. Voici, c'est là ton avantage et le mien, afin, mon noble ami, que nous n'éprouvions pas ce qui arrive, dit-on, aux Thessaliennes, qui attirent la lune à elle. Car c'est au dépens de ce que nous avons de plus cher que nous attirerons à nous cette grande puissance dans l'État. Mais si tu crois que quelqu'un au monde te transmettra un moyen quelconque de te rendre puissant dans la cité, si tes mœurs diffèrent de sa constitution, soit en bien, soit en mal, c'est qu'à mon avis tu raisonnes mal, Calliclès. Ce qu'il faut, ce n'est pas les imiter, c'est leur ressembler naturellement, si tu veux effectivement réussir à gagner l'amitié du Démos d'Athènes, et aussi, par Zeus, celle de Démos, fils de Pyrilampe. C'est donc celui qui te rendra tout à fait pareil à eux qui fera de toi, comme tu le désires, un politique et un orateur. Chacun d'eux aime les discours qui s'accordent à son caractère, mais ce qui lui est étranger leur déplaît, à moins, chère tête, que tu ne sois d'un autre avis. Avons-nous quelque objection? Calliclès, je ne sais comment il se fait que tu me parais avoir raison. Cependant, je suis comme la plupart de tes auditeurs. Je ne te crois qu'à demi. Socrate, c'est que l'amour du peuple, implanté dans ton âme, combat contre moi. Mais si nous revenons sur ces mêmes questions pour les approfondir, peut-être te rendras-tu. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi que nous avons dit qu'il y a deux façons de cultiver chacune de ces deux choses, le corps et l'âme. L'une qui s'en occupe en vue du plaisir, et l'autre qui s'en occupe en vue du bien, et qui, sans chercher à plaire, y applique tout son effort. N'est-ce pas la distinction que nous avons faite alors? Calliclès, si fait. Socrate, et nous avons dit que l'une, celle qui tend au plaisir, n'était autre chose qu'une vile flatterie, n'est-ce pas? Callicles, soit, puisque tu le veux. Socrate, l'autre au contraire tend à rendre aussi parfait que possible l'objet de ses soins, que ce soit le corps ou l'âme. Callicles, oui. Socrate, dès lors ne devons-nous pas, dans les soins que nous donnons à la cité et aux citoyens, nous efforcer de rendre ces citoyens aussi parfaits que possible? Sans cela, comme nous l'avons reconnu précédemment, tout autre service qu'on leur rendrait ne leur serait d'aucune utilité, si ceux qui doivent acquérir ou de grandes richesses ou le pouvoir ou tout autre genre de puissance n'avaient pas des sentiments honnêtes. Admettons-nous qu'il en est ainsi. Callicles, admettons, si cela te plaît. Socrate, maintenant supposons que, désireux de nous charger de quelque entreprise publique, nous nous exhortions mutuellement à nous tourner vers les constructions, vers les plus considérables, celles de remparts, d'arsenaux, de temples. Ne devrions-nous pas nous examiner nous-mêmes et nous demander d'abord si nous connaissons ou non cet art, l'architecture, et de qui nous l'avons appris? Le faudrait-il, oui ou non? Callicles, oui, certainement. Socrate, en second lieu, ne faudrait-il pas vérifier si jamais nous avons bâti quelque édifice privé pour quelqu'un de nos amis ou pour nous-mêmes, et si cet édifice est beau ou laid? Et si, en faisant cet examen, nous trouvons que nous avons eu des maîtres habiles et réputés, et que nous avons construit beaucoup de beaux édifices avec nos maîtres, et beaucoup aussi à nous seuls, après les avoir quittés? Dans ces conditions, nous pourrions raisonnablement aborder les entreprises publiques. Si au contraire, nous n'avions aucun maître à citer, aucune construction à faire voir, ou plusieurs constructions sans valeur, alors ce serait folie, n'est-ce pas, d'entreprendre des ouvrages publics et de nous y exhorter l'un l'autre. Avouons-nous que cela soit bien dit, oui ou non? Callicles, oui. Socrate, il en est de même en tout. Si par exemple, ayant dessein d'être médecin de l'État, nous nous y exhortions l'un l'autre, comme étant qualifiés pour cela, nous nous serions, je présume, examinés au préalable, réciproquement, toi et moi. Voyons au nom des dieux, comment Socrate se porte-t-il lui-même? A-t-il déjà guéri quelqu'un, esclave ou homme libre? De mon côté, j'imagine que je ferai les mêmes questions à ton sujet. Et si nous trouvions que nous n'avons amélioré la santé de personne, étranger ou athénien, homme ou femme, au nom de Zeus, Callicles, ne serait-ce pas une véritable dérision qu'un homme en vienne à cet excès d'extravagance, qu'avant d'avoir fait beaucoup d'expériences quelconques dans l'exercice privé de la médecine, d'avoir obtenu de nombreux succès et de s'être exercé convenablement dans cet art, il veuille, comme dit le proverbe, faire son apprentissage de potier sur une jarre, et se mette dans la tête d'être médecin public, et d'y exhorter ses pareils. Ne te semble-t-il pas qu'il y a de la folie à se conduire de la sorte? Callicles, si. Socrate, maintenant donc, ô le meilleur des hommes, que toi-même tu viens de débuter dans la carrière politique, que tu m'y appelles et que tu me reproches de n'y pas prendre part, n'est-ce pas le moment de nous examiner l'un l'autre, et de dire, voyons, Callicles a-t-il déjà rendu meilleur quelque citoyen? En est-il un qui, étant auparavant méchant, injuste, dissolu, insensé, soit devenu honnête homme, grâce à Callicles, étranger ou citoyen, esclave ou homme libre? Dis-moi, si on te questionnait là-dessus, que répondrais-tu? Qui citerais-tu que ton commerce est rendu meilleur? Pourquoi hésites-tu à répondre, s'il est vrai qu'il y ait une œuvre de toi que tu aies faite dans la vie privée, avant d'aborder les affaires publiques? Callicles, tu veux toujours avoir le dessus, Socrate. Socrate, ce n'est pas pour avoir le dessus que je t'interroge. C'est parce que j'ai un véritable désir de savoir ton opinion sur la manière dont il faut traiter la politique chez nous. T'occuperas-tu, une fois arrivé aux affaires, d'autre chose que de faire de nous des citoyens aussi parfaits que possible? N'avons-nous pas déjà reconnu maintes fois que tel était le devoir de l'homme d'État? L'avons-nous reconnu, oui ou non? Réponds. Oui, nous l'avons reconnu, puisqu'il faut que je réponde pour toi. Si donc tel est l'avantage que l'homme de bien doit ménager à sa patrie, rappelle-toi les hommes dont tu parlais tout à l'heure, et dis-moi si tu crois toujours qu'ils ont été de bons citoyens, les Périclès, les Simons, les Miltiades, les Thémistocles. Callicles, oui, je le crois. Socrate, s'ils étaient bons, il est évident que chacun d'eux rendait ses citoyens meilleurs qu'ils n'avaient été jusqu'alors. Le faisaient-ils, oui ou non? Callicles, oui, Donc lorsque Périclès commença à parler en public, les Athéniens étaient moins bons que lorsqu'il prononça ses derniers discours.
Calliclès.
Peut-être.
Socrate. Ce n'est pas peut-être, excellent Calliclès. C'est nécessairement qu'il faut dire, d'après les principes que nous avons reconnus, s'il est vrai que cet homme d'État était un bon citoyen.
Calliclès. Et après ?
Socrate.
Rien.
Mais réponds encore à cette question. Les Athéniens passent-ils pour être devenus meilleurs grâce à Périclès, ou au contraire ont-ils été corrompus par lui ? J'entends dire en effet que Périclès a rendu les Athéniens paresseux, lâches, bavards et avides d'argent, en établissant le premier un salaire pour les fonctions publiques.
Calliclès,
c'est au laconisant aux oreilles déchirées que tu as entendu dire cela.
Socrate, eh bien voici une chose que je n'ai pas apprise par ouï-dire, mais que je sais positivement.
Et toi aussi.
C'est qu'au début Périclès avait une bonne réputation, et que les Athéniens ne votèrent contre lui aucune peine infamante, au temps où il avait moins de vertu. Mais lorsqu'ils furent devenus d'honnêtes gens grâce à lui, vers la fin de sa vie, ils le condamnèrent pour vol. Ils faillirent même lui infliger la peine de mort, évidemment parce qu'ils le jugeaient méchant.
Calliclès.
Eh bien, Périclès était-il méchant pour cela ?
Socrate. En tout cas, un gardien d'âne, de chevaux ou de bœufs serait jugé mauvais s'il était dans le cas de Périclès, si, ayant reçu à garder des animaux qui ne ruaient pas, qui ne frappaient pas de la corne, qui ne mordaient pas, il les avait rendus sauvages au point de faire tout cela. Ne tiens-tu pas pour mauvais tout gardien d'animaux, quel qu'il soit, qui, les ayant reçus plus doux, les a rendus plus sauvages qu'il ne les a reçus ? Est-ce ton avis ou non ?
Calliclès.
Oui, pour te faire plaisir.
Socrate.
Fais-moi donc encore le plaisir de répondre à ceci. L'homme fait-il ou non partie des animaux ?
Calliclès. Sans doute.
Socrate. Or c'était des hommes que Périclès avait à conduire.
Calliclès.
Oui.
Socrate. Eh bien n'aurait-il pas dû, comme nous venons d'en convenir, devenir par ses soins plus juste qu'il ne l'était avant, si Périclès avait pour les diriger les qualités d'un homme d'État ?
Calliclès. Certainement.
Socrate. Or les justes sont doux, au dire d'Homère.
Qu'en dis-tu ? N'est-ce pas ton avis ?
Calliclès.
Si.
Socrate. Cependant, il les a rendus plus féroces qu'il ne les avait reçus,
et cela contre lui-même, le dernier qu'il eût voulu voir attaquer.
Calliclès. Tu veux que je te l'accorde ?
Socrate.
Oui, s'il te paraît que je dis la vérité.
Calliclès.
Soit donc.
Socrate. Mais en les rendant plus féroces, il les a rendus plus injustes et plus mauvais.
Calliclès.
Soit.
Socrate.
À ce compte, Périclès n'était donc pas un bon politique.
Calliclès.
C'est toi qui le dis.
Socrate. Et toi aussi, par Zeus, si je m'en rapporte à tes aveux.
Mais maintenant parlons de Simon. N'a-t-il pas été frappé d'ostracisme par ceux dont il prenait soin, pour que de 10 ans, ils n'eussent plus à entendre sa voix ? Et Thémistocle, n'a-t-il pas été traité de même, et de plus condamné à l'exil ? Quant à Miltiade, le vainqueur de Marathon, n'avait-il pas voté qu'il serait jeté dans le barâtre, et sans le prytane, n'y aurait-il pas été précipité ? Si cependant tous ces hommes avaient eu la vertu que tu leur attribues, ils n'auraient jamais été traités de la sorte. Il n'est pas naturel que les bons cochers restent fermes sur leurs chars au début de leur carrière et qu'ils en tombent juste au moment où ils ont dressé leurs chevaux et sont devenus eux-mêmes plus habiles. C'est ce qui n'arrive ni dans l'art de conduire un attelage, ni dans aucun autre.
N'est-ce pas ton avis ?
Calliclès.
Si.
Socrate. Nous avions donc raison, à ce qu'il paraît, quand nous disions dans nos précédents discours qu'il n'y avait jamais eu, à notre connaissance, de bons politiques dans notre ville. Tu avouais toi-même qu'il n'y en a point parmi nos contemporains, mais qu'il y en avait eu jadis, et à cela tu donnais une place à part. Mais nous avons reconnu qu'ils étaient exactement pareils à ceux de nos jours, en sorte que, s'ils ont été des orateurs, ils n'ont fait usage ni de la véritable rhétorique, autrement, ils n'auraient pas été renversés, ni de la rhétorique flatteuse.
Calliclès.
Il s'en faut pourtant de beaucoup, Socrate, qu'aucun des politiques d'aujourd'hui ait jamais fait quelque chose de comparable aux œuvres de l'un quelconque de ceux-là.
Socrate.
Moi non plus, mon admirable ami, je ne les blâme pas en tant que serviteurs de l'État. Je crois même qu'à ce titre ils ont été supérieurs à ceux d'aujourd'hui et plus habiles à procurer à la cité ce qu'elle désirait.
mais pour ce qui est de faire changer ses désirs et d'y résister en l'amenant par la persuasion ou par la contrainte aux mesures propres à rendre les citoyens meilleurs, il n'y a pour ainsi dire pas de différence entre ceux-ci et ceux-là. Or, c'est là l'unique tâche d'un bon citoyen. À l'égard des vaisseaux, des murailles, des arsenaux et de beaucoup d'autres choses du même genre, je conviens avec toi qu'ils ont été plus habiles à en procurer que ceux d'aujourd'hui. Cela étant, nous faisons, toi et moi, à discuter ainsi une chose ridicule. Depuis le temps que nous conversons, nous n'avons pas cessé de tourner dans le même cercle, sans nous entendre l'un l'autre. En tout cas, je suis sûr que tu as plus d'une fois avoué et reconnu qu'il y a deux manières de traiter le corps et l'âme, l'une servile, par laquelle il est possible de procurer au corps, s'il a faim, des aliments, s'il a soif, des boissons, s'il a froid, des vêtements, des couvertures, des chaussures. Bref, tout ce que le corps peut désirer. C'est à dessein que j'emploie les mêmes exemples, afin que tu me comprennes plus facilement. Quand on est en état de fournir ces objets, soit comme négociant ou marchand au détail, soit comme fabricant de quelqu'un de ces mêmes objets, boulanger, cuisinier, tisserand, cordonnier, tanneur, il n'est pas surprenant qu'en ce cas, on se regarde soi-même et qu'on soit regardé par les autres comme chargé du soin du corps. Si l'on ne sait pas, qu'outre tous ces arts, il y a un art de la gymnastique et de la médecine qui constitue la véritable culture du corps, et auquel il appartient de commander à tous ces arts et de se servir de leurs produits, parce qu'il sait ce qui, dans les aliments ou les boissons, est salutaire ou nuisible à la santé du corps, et que tous les autres l'ignorent. C'est pour cela qu'en ce qui regarde le soin du corps, ces arts sont réputés serviles, bas, indignes d'un homme libre, tandis que la gymnastique et la musique passent à bon droit pour être les maîtresses de ceux-là. Qu'il en soit de même en ce qui concerne l'âme, tu sembles le comprendre au moment même où je te le dis, et tu en conviens en homme qui a compris ma pensée. Mais un moment après, tu viens me dire qu'il y a d'honnêtes citoyens dans notre ville, et quand je te demande lesquels, tu mets en avant des hommes qui me paraissent exactement tels en matière de politique que si interrogés par moi en matière de gymnastique sur ceux qui ont été ou sont habiles à dresser les corps, tu me citais avec le plus grand sérieux Théarion, le boulanger, Mitaïkos, celui qui a écrit sur la cuisine cilicienne, et Sarambon, le marchand de vin, parce qu'ils s'entendent merveilleusement à prendre soin du corps, en apprêtant admirablement l'un le pain, l'autre les ragoûts, et le troisième le vin. Peut-être t'indignerais-tu si je te disais « Tu n'entends rien, l'ami, à la gymnastique. Tu me nommes des gens qui sont des serviteurs et des pourvoyeurs de nos besoins, mais qui n'entendent rien à ce qui est beau et bon en cette matière. Le hasard peut faire qu'ils remplissent et épaississent les corps de leurs clients et qu'ils soient loués par eux. Mais ils finiront par leur faire perdre même leur ancienne corpulence. Ceux-ci, de leur côté, sont trop ignorants pour accuser ceux qui les régalent d'être les auteurs de leur maladie et de la perte de leur poids primitif. Mais si par hasard il se trouve là des gens qui leur donnent quelques conseils, au moment où les excès qu'ils ont faits sans égard pour leur santé auront longtemps après amené la maladie, ce sont ceux-là qu'ils accuseront, qu'ils blâmeront, qu'ils maltraiteront, s'ils le peuvent. Tandis que pour les premiers, qui sont la cause de leurs maux, ils n'auront que des éloges. Toi, Calliclès, tu agis exactement comme eux. Tu vantes des hommes qui ont régalé les Athéniens en leur servant tout ce qu'ils désiraient, et qui ont, dit-on, agrandi l'État. Mais on ne voit pas que l'agrandissement dû à ces anciens politiques n'est qu'une enflure où se dissimule un ulcère. Car ils n'avaient point en vue la tempérance et la justice quand ils ont rempli la cité de ports, d'arsenaux, de remparts, de tribus et autres bagatelles semblables. Quand viendra l'accès de faiblesse, les Athéniens accuseront ceux qui se trouveront là et donneront des conseils. Mais ils n'auront que des éloges pour Thémistocle, pour Simon, pour Périclès, auteurs de leurs maux. Peut-être est-ce à toi qu'ils s'attaqueront, si tu n'y prends garde, ou à mon ami Alcibiade, quand, avec leurs acquisitions, ils perdront leurs anciennes possessions. Quoique vous ne soyez pas les auteurs du mal, mais seulement peut-être des complices. Au reste, il y a une chose déraisonnable que je vois faire aujourd'hui et que j'entends dire également des hommes d'autrefois. Je remarque que lorsque la cité met en cause un de ces hommes d'État préjugés coupables, ils s'indignent et se plaignent de l'affreux traitement qu'ils subissent. « Ils ont rendu 1000 services à l'État, s'écrient-ils, et l'État les perd injustement. » mais c'est un pur mensonge, car jamais un chef d'État ne peut être opprimé injustement par la cité même à laquelle il préside. Il semble bien qu'il faut mettre ceux qui se donnent pour des hommes d'État sur la même ligne que les sophistes. Les sophistes, gens sages en tout le reste, se conduisent d'une manière absurde en ceci. Ils se donnent pour professeurs de vertu, et souvent, ils accusent leurs disciples d'être injustes envers eux en les privant de leur salaire, et ne leur témoignant pas toute la reconnaissance due à leurs bienfaits. Or, y a-t-il rien de plus inconséquent qu'un tel discours ? Des hommes devenus bons et justes par les soins d'un maître qui leur a ôté l'injustice et les a mis en possession de la justice pourraient lui faire tort avec ce qu'ils n'ont plus. Ne trouves-tu pas cela absurde, camarade ? Tu m'as réduit, Calliclès, à faire une véritable harangue en refusant de me répondre. Calliclès, mais toi-même, ne saurais-tu parler sans qu'on te réponde ? Socrate, peut-être. En tout cas, je tiens à présent de longs discours, parce que tu refuses de me répondre. Mais au nom du dieu de l'amitié, dis-moi, mon bon ami, ne trouves-tu pas absurde de prétendre qu'on a rendu bon un homme, et quand cet homme est devenu, et qu'il est bon, grâce à nous, de lui reprocher d'être méchant ? Calliclès, c'est mon avis. Socrate, n'entends-tu pas tenir le même langage à ceux qui font profession de former les hommes à la vertu ? Calliclès, si, mais pourquoi parles-tu de gens qui ne méritent aucune considération ? Socrate, et toi ? Que diras-tu de ces hommes qui font profession de gouverner la cité et de travailler à la rendre la meilleure possible, et qui l'accusent ensuite, à l'occasion, d'être extrêmement corrompus ? Vois-tu quelque différence entre ceci et cela ? Sophistique et rhétorique, mon bienheureux ami, c'est tout un, ou du moins voisin et ressemblant, ainsi que je le disais à Apollos. Mais toi, dans ton ignorance, tu crois que l'une, la rhétorique, est une chose parfaitement belle, et tu méprises l'autre. Mais en réalité, la sophistique l'emporte en beauté sur la rhétorique, autant que la législation sur la jurisprudence, et la gymnastique sur la médecine. Pour moi, je croyais que les orateurs politiques et les sophistes étaient les seuls qui n'eussent pas le droit de reprocher à celui qu'ils éduquent eux-mêmes d'être mauvais à leur égard, qu'autrement ils s'accusent eux-mêmes, du même coup, de n'avoir fait aucun bien à ce qu'ils prétendent améliorer. N'est-ce pas vrai ? Calliclès. Certainement. Socrate. Ce sont aussi, je crois, les seuls qui pourraient vraisemblablement donner leur service sans exiger de salaire, si ce qu'ils disent est vrai. Pour toute autre espèce de service, par exemple pour avoir appris d'un pédotribe à courir vite, il se pourrait que le bénéficiaire voulût frustrer son maître de la reconnaissance qu'il lui doit. Si celui-ci lui avait donné ses leçons de confiance et sans stipuler qu'il toucherait son salaire au moment même, autant que possible, où il lui communiquerait l'agilité. Car ce n'est pas la lenteur, je pense, qui fait qu'on est injuste. C'est l'injustice. Est-ce vrai ? Calliclès. Oui. Socrate. Donc si c'est précisément l'injustice que le maître lui retire, le maître n'a pas à craindre l'injustice de son disciple. Et seul, il peut en toute sûreté placer ce service sans condition, s'il est réellement capable de faire des hommes vertueux. N'est-ce pas vrai ? Calliclès. J'en conviens. Socrate, c'est pour cette raison, semble-t-il, que pour toute autre espèce de conseil, par exemple à propos d'architecture et des autres arts, il n'y a aucune honte à recevoir de l'argent. Calliclès, il le semble. Socrate, mais s'il s'agit de la méthode à suivre pour devenir aussi bon que possible et pour administrer parfaitement sa maison ou la cité, c'est une opinion établie qu'il est honteux de n'accorder ses conseils que contre argent. Est-ce vrai ? Calliclès, oui. Socrate, la raison en est évidemment que parmi les bienfaits, c'est le seul qui inspire à celui qui l'a reçu le désir de le rendre, de sorte qu'on regarde comme un bon signe si l'auteur de ce genre de bienfaits est payé de retour, et comme mauvais s'il ne l'est pas. Les choses sont-elles comme je dis ? Calliclès, oui. Socrate, quelle méthode veux-tu donc que je choisisse pour prendre soin de l'État ? Dois-je combattre les Athéniens afin de les rendre les meilleurs possibles, comme fait un médecin ? Ou les servir et chercher à leur complaire. Dis-moi la vérité, Calliclès, car il est juste que, comme tu as commencé par être franc avec moi, tu continues à dire ce que tu penses. Parle donc nettement et bravement. Calliclès, eh bien je te conseille de les servir. Socrate, à ce compte c'est au métier de flatteur, mon noble ami, que tu m'appelles. Calliclès, de misien, si tu préfères ce nom, car si tu ne fais pas ce que je dis, Socrate, ne me répète pas ce que tu m'as dit maintes fois, que je serai mis à mort par qui voudra, si tu ne veux pas qu'à mon tour je te répète que ce sera un méchant qui fera mettre à mort un honnête homme, ni que je serai dépouillé de mes biens, si tu ne veux pas que je te répète aussi que mon spoliateur ne saura pas en faire usage, mais que comme il les aura enlevés injustement, il en usera injustement, quand il en sera maître, et s'il en use injustement, il en usera honteusement, et mal, parce qu'honteusement. Calliclès, tu me paries bien confiant, Socrate, de croire qu'il ne t'arrivera rien de semblable, parce que tu vis à l'écart et que tu ne seras pas traîné devant un tribunal par un homme peut-être foncièrement méchant et méprisable. Socrate, je serais effectivement bien sot, Calliclès, si je ne croyais pas que, dans cette ville, n'importe qui peut avoir à souffrir un jour ou l'autre un pareil accident. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si je parais devant un tribunal et que j'y cours un des risques dont tu parles, celui qui m'y citera sera un méchant homme, car jamais homme de bien n'accusera un innocent, et il n'y aurait rien d'étonnant que je fusse condamné à mort. Veux-tu que je te dise pourquoi je m'y attends ?
Calliclès, oui, certes !
Socrate, je crois que je suis un des rares Athéniens, pour ne pas dire le seul, qui s'attache au véritable art politique, et qu'il n'y a que moi qui le pratique aujourd'hui. Comme chaque fois que je m'entretiens avec quelqu'un, ce n'est point pour plaire que je parle, mais que je vise au plus utile, et non au plus agréable, et que je ne puis me résoudre à faire ces jolies choses que tu me conseilles, je n'aurai rien à dire devant mes juges. Le cas dont je parlais, Apollos, est aussi le mien. Je serai jugé comme le serait un médecin, accusé devant des enfants par un cuisinier. Vois en effet ce qu'un pareil accusé pris au milieu de tels juges pourrait alléguer pour sa défense, si on l'accusait en ces termes. Enfant, l'homme que voici vous a souvent fait du mal à vous-même, et il déforme les plus jeunes gens d'entre vous, en les incisant et les brûlant. Il les réduit au désespoir en les faisant maigrir et en les étouffant. Il leur donne des breuvages très amers, les force à souffrir la faim et la soif, au lieu de vous régaler, comme moi, de mille choses exquises et variées. Que crois-tu que pourrait dire le médecin pris dans ce guépier ? S'il disait ce qui est vrai, je n'ai fait tout cela, enfant, que pour votre santé. Quelle clameur crois-tu que pousserait de tels juges ? Ne serait-elle pas violente ?
Calliclès, sans doute, il faut le croire.
Socrate, ne crois-tu pas qu'il sera fort embarrassé de savoir quoi dire ?
Calliclès, assurément.
Socrate, je sais bien que la même chose m'arriverait, si je comparaissais devant des juges, car je ne pourrais pas alléguer que je leur ai procuré ces plaisirs qu'ils regardent comme des bienfaits et des services. Tandis que moi, je n'envie ni ceux qui les procurent, ni ceux qui les reçoivent. Si on m'accuse ou de corrompre les jeunes gens en les réduisant à douter, ou d'insulter les gens plus âgés en tenant sur eux des propos amers, soit en particulier, soit en public, je ne pourrai ni leur répondre conformément à la vérité. C'est la justice qui me fait parler ainsi, et en cela je sers votre intérêt, juge. Ni dire aucune autre chose, de sorte que je dois m'attendre à ce qu'il plaira au sort d'ordonner.
Calliclès, alors tu crois, Socrate, qu'il est beau pour un homme d'être dans une pareille position, et dans l'impuissance de se défendre lui-même ?
Socrate, oui, Calliclès, à condition qu'il ait une chose que tu lui as plusieurs fois accordée. Je veux dire qu'il se soit ménagé le secours qui consiste à n'avoir rien dit, ni rien fait d'injuste, ni envers les hommes, ni envers les dieux. Car cette manière de se secourir soi-même, ainsi que nous l'avons reconnu plus d'une fois, est la meilleure de toutes. Si donc on me prouvait que je suis incapable de m'assurer cette sorte de secours à moi-même et à un autre, je rougirais d'être convaincu, devant peu comme devant beaucoup de personnes, et même en tête à tête avec moi seul. Et si cette impuissance devait causer ma mort, j'en serais bien fâché. Mais si je perdais la vie, faute de connaître la rhétorique flatteuse, je suis sûr que tu me verrais supporter facilement la mort. La mort en soi n'a rien d'effrayant, à moins que l'on ne soit tout à fait insensé et lâche. Ce qui est effrayant, c'est l'injustice, car le plus grand des malheurs est d'arriver chez Hadès avec une âme chargée de crimes. Si tu le veux, je suis prêt à te faire un récit qui te le prouvera.
Calliclès, eh bien, puisque tu as achevé ton exposition, achève aussi de traiter ce point.
Socrate, écoute donc, comme on dit, une belle histoire, que tu prendras, je m'en doute, pour une fable, mais que je tiens pour une histoire vraie. Car je te garantis vrai ce que je vais te dire. Comme le dit Homère, Zeus, Poséidon et Pluton, ayant reçu l'empire de leur père, le partagèrent entre eux. Or, au temps de Cronos, il y avait à l'égard des hommes une loi qui a toujours subsisté, et qui subsiste encore parmi les dieux. que celui qui a mené une vie juste et sainte aille après sa mort dans les îles des bienheureux pour y séjourner à l'abri de tout mal dans une félicité parfaite, et qu'au contraire celui qui a vécu dans l'injustice et l'impiété aille dans la prison de l'expiation et de la peine qu'on appelle le Tartare. Or au temps de Cronos et au début du règne de Zeus, les juges étaient vivants et jugeaient des vivants le jour même où ceux-ci devaient mourir. Aussi les jugements étaient mal rendus. Alors Pluton et les surveillants des îles fortunées allèrent rapporter à Zeus qu'il leur venait dans les deux endroits des hommes qui ne méritaient pas d'y séjourner. « Je vais mettre un terme à ces erreurs, » répondit Zeus. « Ce qui fait que les jugements sont mal rendus, c'est qu'on juge les hommes tout vêtus, car on les juge de leur vivant. Aussi, poursuivit-il, beaucoup d'hommes qui ont des âmes dépravées sont revêtus de beaux corps, de noblesse et de richesse. » Et à l'heure du jugement, il leur vient une foule de témoins pour attester qu'ils ont vécu selon la justice. Les juges sont éblouis par tout cela. En outre, ils jugent tout habillés aussi, ayant devant leur âme, comme un voile, des yeux, des oreilles et tout le corps. Cet appareil qui les couvre, eux et ceux qui ont à juger, leur offusque la vue. La première chose à faire, ajouta-t-il, c'est d'ôter aux hommes la connaissance de l'heure où ils doivent mourir, car ils la connaissent d'avance. Aussi Prométhée a déjà été averti de mettre un terme à cet abus. Ensuite, il faut qu'on les juge dépouillés de tout cet appareil. Il faut aussi que le juge soit nu et mort, pour examiner avec son âme seule l'âme de chacun, aussitôt après sa mort, et que celui qu'il juge ne soit assisté d'aucun parent, et qu'il laisse toute cette pompe sur la terre, afin que le jugement soit équitable. J'avais reconnu ce désordre avant vous. En conséquence, j'ai établi comme juge trois de mes fils, deux d'Asie, Minos et Radamante, et un d'Europe, Éaque. Lorsqu'ils seront morts, ils rendront leur jugement dans la prairie, au carrefour d'où partent les deux routes qui mènent, l'une aux îles des Bienheureux, l'autre aux Tartares. Radamante jugera les hommes de l'Asie, Éaque ceux de l'Europe. Pour Minos, je lui réserve le privilège de prononcer un dernier ressort si les deux autres sont embarrassés, afin que le jugement qui décide du voyage des hommes soit aussi juste que possible. Voilà, Calliclès, ce que j'ai entendu raconter, et que je tiens pour vrai. Et de ces récits, je tire la conclusion suivante. La mort, à ce qu'il me semble, n'est pas autre chose que la séparation de deux choses, l'âme et le corps. Quand elles sont séparées l'une de l'autre, chacune d'elles n'en reste pas moins dans l'état où elle était du vivant de l'homme. Le corps garde sa nature propre avec les marques visibles des traitements et des accidents qu'il a subis. Si par exemple un homme était de haute taille de son vivant, soit par nature, soit grâce à son régime, soit pour les deux causes à la fois, son corps est également de grande taille après sa mort. S'il était gros, son cadavre est gros, et ainsi de suite. S'il affectait de porter des cheveux longs, son corps garde sa chevelure. Si c'était un homme à étrivière, et si pendant sa vie il portait sur son corps les traces cicatrisées des coups de fouet ou d'autres blessures, on peut les voir sur son cadavre. S'il avait des membres brisés ou contrefaits, tandis qu'il était en vie, ses défauts sont encore visibles sur son cadavre. En un mot, les traits de son organisation physique, pendant la vie, restent tous ou presque tous visibles après la mort durant un certain temps. Il me paraît, Calliclès, qu'il en est de même à l'égard de l'âme, et que lorsqu'elle est dépouillée de son corps, on aperçoit en elle tous les traits de son caractère et les modifications qu'elle a subies par suite des divers métiers que l'homme a pratiqués. Lors donc que les morts sont arrivés devant le juge, par exemple ceux d'Asie devant Radamante, celui-ci les fait approcher de lui, et il examine chaque âme, sans savoir à qui elle appartient. Souvent, mettant la main sur le grand roi, ou sur tout autre souverain ou potentat, il constate qu'il n'y a rien de saint dans son âme, qu'elle est toute tailladée et balafrée par les parjures et l'injustice dont chacun des actes de l'homme y a marqué l'empreinte, que tout y est tordu par le mensonge et la vantardise, et que rien n'y est droit, parce qu'elle a été nourrie loin de la vérité, et qu'enfin la licence, la mollesse, l'insolence et l'incontinence de sa conduite l'ont remplie de désordre et de laideur. À cette vue, Radamante la renvoie ignominieusement tout droit à la prison pour y subir les châtiments qui lui conviennent. Or ce qui convient à tout être qu'on châtie, quand on le châtie justement, c'est de devenir meilleur et de tirer profit de la punition, ou de servir d'exemple aux autres, afin qu'en le voyant souffrir ce qu'il souffre, ils prennent peur et s'améliorent. Mais ceux qui tirent profit de l'expiation que leur imposent, soit les dieux, soit les hommes, sont ceux qui n'ont commis que des fautes remédiables. Toutefois, ce profit ne s'acquiert que par des douleurs et des souffrances, et sur terre et dans l'Hadès, car c'est le seul moyen de se débarrasser de l'injustice. Quant à ceux qui ont commis des derniers forfaits, et sont par suite devenus incurables, ce sont eux qui servent d'exemple. Eux-mêmes ne tirent plus aucun profit de leurs souffrances, puisqu'ils sont incurables. Mais d'autres profitent à les voir éternellement souffrir, à cause de leurs fautes, les plus grands, les plus douloureux, les plus effroyables supplices, et suspendus comme de vrais épouvantails, là-bas dans la prison de l'Hadès, servir de spectacle et d'avertissement à chaque nouveau coupable qui arrive en ces lieux. Archélaos sera du nombre, je puis te l'assurer, si Polos a dit vrai, ainsi que tout autre tyran pareil à lui. Je crois en effet que la plupart de ceux qui servent d'exemple sont des tyrans, des rois, des potentats et des hommes politiques, car ce sont ceux-là qui, grâce à leur pouvoir arbitraire, commettent les crimes les plus graves et les plus impies. Homère lui-même en témoigne, car ce sont des rois et des potentats qu'il a représentés comme éternellement punis dans l'Hadès, Tantale, Sisyphe, Tityos. Quant à Tersite et aux autres méchants qui étaient de simples particuliers, personne ne les a représentés comme incurables et soumis comme tels au grand châtiment. C'est que sans doute le pouvoir leur manquait. Aussi étaient-ils plus heureux que ceux qu'il avait. C'est en fait Calliclès parmi les puissants que se trouvent les hommes qui deviennent extrêmement méchants. Rien n'empêche, pourtant, qu'il ne se rencontre parmi eux des hommes vertueux qu'on ne saurait trop admirer. Car il est difficile, Calliclès, et souverainement méritoire, quand on a pleine liberté de mal faire, de rester juste toute sa vie. Et on rencontre peu de caractères de cette trempe. Il y a eu néanmoins dans cette ville et ailleurs, et il y aura sans doute encore, d'honnêtes gens, pour pratiquer la vertu qui consiste à administrer avec justice les affaires qu'on leur confie. On en a même vu un qui est devenu très célèbre par toute la Grèce, Aristide, fils de Lysimaque. Mais la plupart des potentats, excellents Calliclès, deviennent des scélérats. Pour en revenir à ce que je disais, lorsque ce Rhadamante reçoit un de ces scélérats, il ignore tout de lui, qui il est et de quelle famille, sauf que c'est un méchant. Quand il s'en est assuré, il le relègue au Tartare, après avoir signalé par une marque s'il le juge guérissable ou incurable. Arrivé là, le coupable subit la peine qui convient à son état. D'autre fois, en voyant une âme qui a vécu saintement et dans la vérité, âme d'un simple citoyen ou de tout autre, mais particulièrement, je te l'affirme, Calliclès, d'un philosophe qui ne s'est occupé durant sa vie que de ses propres affaires, sans s'ingérer dans celles des autres, il s'abandonne à l'admiration et l'envoie dans les îles des bienheureux. Éaque s'occupe du même office, tous les deux jugent en tenant une baguette à la main. Quant à Minos, qui surveille ses jugements, il est assis, et seul il a un sceptre d'or, comme l'Ulysse d'Homère rapporte qu'il l'a vu tenant un sceptre d'or et rendant la justice aux morts. Pour ma part, Calliclès, j'ajoute foi à ces récits, et je m'étudie à rendre mon âme aussi saine que possible pour la présenter au juge. Je n'ai cure des honneurs chers à la plupart des hommes. Je ne cherche que la vérité, et je veux tâter d'être réellement aussi parfait que possible de mon vivant et à ma mort, quand mon heure sera venue. J'exhorte aussi tous les autres hommes, autant que je le puis, et je t'exhorte toi-même, Calliclès, contrairement à tes conseils, à suivre ce genre de vie, et à t'exercer à ce combat qui vaut, je te l'assure, tous les combats de ce bas monde. Et je te blâme de l'incapacité où tu seras de te défendre toi-même quand viendra pour toi le moment de ce procès et de ce jugement dont je parlais tout à l'heure. Quand tu arriveras devant ton juge, le fils d'Égine, et que mettant la main sur toi, il te mènera devant son tribunal, tu resteras bouche bée et la tête te tournera là-bas tout comme à moi ici. Et peut-être seras-tu frappé ignominieusement sur la joue, et en butte à tous les outrages. Peut-être considères-tu mon récit comme un conte de vieille femme, pour lequel tu n'éprouves que du dédain. Il ne serait d'ailleurs pas surprenant que nous le dédaignions, si par nos recherches dans un sens ou dans l'autre, nous pouvions trouver quelque chose de meilleur et de plus vrai. Mais tu vois qu'à vous trois, qui êtes les plus savants des Grecs d'aujourd'hui, toi, Polos et Gorgias, vous êtes hors d'état de prouver qu'on doive mener une autre vie que celle-ci, qui apparaît comme utile même dans l'autre monde. Au contraire, parmi tant d'opinions, toutes les autres ayant été réfutées, celle-ci reste seule inébranlable, qu'il faut se garder avec plus de soin de commettre l'injustice que de la subir, et qu'avant tout il faut s'appliquer, non pas à paraître bon, mais à l'être, dans la vie privée comme dans la vie publique. Si un homme devient mauvais en quelque point, il faut qu'il soit châtié. Le second bien après celui d'être juste consistant à le devenir et à expier sa faute par la punition. Qu'il faut éviter toute flatterie envers soi-même et envers les autres, qu'il soit en petit ou en grand nombre, et qu'on ne doit jamais ni parler ni agir qu'en vue de la justice. Écoute-moi donc, et suis-moi dans la route qui te conduira au bonheur, et pendant ta vie, et après ta mort, comme la raison l'indique. Souffre qu'on te méprise comme insensé, qu'on te bafoue, si l'on veut, et même par Zeus qu'on t'assène ce coup si outrageant. Reçois-le sans te troubler, tu n'en éprouveras aucun mal, si tu es réellement un homme honnête, qui pratique la vertu. Puis quand nous l'aurons ainsi pratiqué en commun, à ce moment, si nous le jugeons à propos, nous aborderons la politique, ou si nous nous décidons pour une autre carrière, nous délibérerons alors, étant devenus plus capables de le faire que nous ne le sommes à présent. Car nous devrions rougir, dans l'état où nous paraissons être à présent, de fanfaronner comme si nous valions quelque chose, nous qui changeons à chaque instant de sentiments sur les mêmes sujets et les plus importants, tant est grande notre ignorance. Prenons donc pour guide la vérité, qui vient de nous apparaître et qui nous enseigne que la meilleure conduite à suivre est de vivre et de mourir en pratiquant la justice et les autres vertus. Attachons-nous donc à cette doctrine et engageons les autres à la suivre, au lieu de celle qui t'a séduit et que tu m'exhortes à pratiquer. Car elle ne vaut rien, Calliclès.